Vous écoutez
RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Frédéric Ancel.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio ce matin. Vous êtes géopolitologue, vous êtes spécialiste du Moyen-Orient et c'est un triste anniversaire ce matin puisque l'attaque du 7 octobre, c'était il y a pile 2 mois. Ça faisait basculer le Proche-Orient dans l'enfer. Le massacre d'abord des habitants par le Hamas, des hommes, des femmes, des enfants kidnappés également. Et puis la réplique d'Israël, des bombardements incessants sur Gaza. Une situation proche de l'effondrement. Voilà les mots hier du patron de Médecins du Monde. Jusqu'où, jusqu'à quand, quelles conséquences là-bas et ici? Et je voudrais qu'on commence par ici parce qu'on l'a appris hier soir lors de sa garde à vue. Le terroriste qui a frappé en plein cœur de Paris samedi soir explique son passage à l'acte par le conflit au Proche-Orient et sa motivation, c'était en réalité de tuer des Juifs. Il avait d'ailleurs normalement prévu d'aller juste au bout du pont Bir Hakeim, pour ceux qui connaissent Paris, sur le jardin du mémorial des enfants du Veldiv. Et c'est là qu'il voulait s'en prendre à des passants. C'est donc précisément une réplique ici sur le sol français de ce qui se passe là-bas.
C'est très exactement l'instrumentalisation du conflit israélo-palestinien par des gens qui sont antisémites et qui n'ont pas attendu qu'il y ait la guerre au Proche-Orient pour être antisémites. Vouloir toucher des citoyens français de confession juive, des citoyens d'autres nationalités éventuellement aussi, mais de confession juive sous prétexte qu'il y a un conflit au Proche-Orient, sous prétexte de telle ou telle politique, d'ailleurs de l'État d'Israël, relève purement et simplement de l'antisémitisme, en l'occurrence du plus criminel des antisémitismes. Moi, je constate que chez ces terroristes islamistes, il y a tout de même une indignation à géométrie extraordinairement variable. Parce que beaucoup de musulmans dans le monde aujourd'hui subissent, et les Palestiniens sont en immense majorité musulmans bien sûr, subissent des avanies extrêmement graves. Il y a quelques années, les Rohingyas de Birmanie étaient chassés dans des conditions pour le coup réellement génocidaires. C'est ce que les grandes instances internationales avaient dit à l'époque. Ils étaient 1 million. Je ne me souviens pas ni de manifestations place de la République, ni de d'attentats terroristes visant, bah tiens donc, des Birmans, pourquoi pas. Il y en a après tout en Europe aussi, des Birmans. Donc si vous voulez, on a affaire à quelque chose qui est extrêmement grave. J'insiste sur
prétexte.
Ce terme.
Vous le dites, prétexte.
Absolument. Et la cause palestinienne, hélas pour les Palestiniens eux-mêmes, est instrumentalisée en permanence depuis des décennies par des militants islamistes.
Le terroriste, encore une fois, qui a frappé en plein cœur de Paris, dit que le déclic, à proprement parler, c'est lorsqu'il a vu le drapeau israélien projeté sur la tour Eiffel.
Oui, bah écoutez, alors je pense qu'il y a là manifestement un problème extraordinairement grave. Je ne sais pas si c'est d'ordre psychiatrique ou pas, mais encore une fois, on a une indignation à géométrie variable. L'État d'Israël est un État reconnu par les Nations Unies et pour cause depuis au moins le plan de partage du 29 novembre 1947. On peut et on doit d'ailleurs, en tant que citoyen, pouvoir porter une critique sur telle ou telle politique ou telle initiative militaire ou pas, d'ailleurs, d'un gouvernement dans le monde. Personne ne s'en prive. Entre parenthèses, les Israéliens, je peux vous garantir, et vous le savez, ils ne s'en privent pas du tout eux-mêmes vis-à-vis de leur propre gouvernement. Mais de là à aller viser pour blesser, voire tuer, en l'occurrence, encore une fois, des citoyens qui, a priori, n'ont pas de rapport direct avec ce conflit, est juste criminel. Et la complaisance vis-à-vis de cette instrumentalisation est de nature irresponsable.
Par qui ?
Et criminelle.
Par qui cette complaisance ?
Par tous ceux qui considèrent que, décidément, c'est de la faute, en l'occurrence, d'Israël, si il y a propagation ou développement de l'antisémitisme à l'extérieur. Là, on a affaire à quelque chose de réellement irresponsable. J'insiste là aussi sur ce terme, c'est une irresponsabilité de nature potentiellement criminelle.
Frédéric Ancel, il a prêté allégeance, dit-il, à Daesh, et c'est le retour en quelque sorte de Daesh comme l'un des acteurs qu'on avait pensé probablement un peu éteint. Est-ce que Daesh, aujourd'hui, a les moyens de remobiliser une forme de terrorisme dans le monde ?
J'en suis pas sûr. Je pense qu'on a, alors c'est l'une des deux hypothèses possibles, on a affaire peut-être à un système de franchise. Je veux dire par là que depuis les débuts d'Al-Qaïda dans les années 90 et 2000, puis avec l'avènement des barbares de Daesh dans les années 2010, on a eu un certain nombre d'actes de terrorisme, parfois de la part de ce qu'on a appelé peut-être à tort des loups solitaires, qui voulaient donner de la publicité à leur action et qui savaient parfaitement pouvoir compter sur une publicité très, très proactive, très efficace s'ils se réclamaient de Daesh ou d'Al-Qaïda. Et de l'autre côté, chez ces gens-là, on considérait, en apprenant peut-être parfois par la presse qu'il y avait eu attentat en leur nom, qu'il fallait l'assumer, qu'il fallait le revendiquer, de façon à maintenir une pression sur les opinions et sur les gouvernements en Occident.
Ça veut dire que c'est une forme d'opportunisme, en fait, de terrorisme d'opportunisme, si je
absolument. En tout cas, c'est l'une des deux hypothèses. L'autre est effectivement une allégeance en bonne et due forme au groupe terroriste Daesh.
Frédéric Ancel, d'après l'Organisation mondiale de la santé, la situation à Gaza est, je cite, proche de l'heure la plus sombre de l'humanité. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé hier le Conseil de sécurité à faire, je cite, pression pour éviter une catastrophe humanitaire face au risque grave d'effondrement du système humanitaire à Gaza. J'exhorte, dit-il, le Conseil à contribuer à éviter une catastrophe humanitaire et à appeler à un cessez-le-feu humanitaire. Quels sont les outils dont dispose l'ONU et quelle est la situation à Gaza ?
L'outil fondamental, c'est l'exécutif, c'est le Conseil de sécurité. Si le Conseil de sécurité des Nations Unies décide qu'il doit pouvoir, qu'il doit suivre les exhortations du secrétaire général, ça se passera. S'il n'y a pas de veto, globalement, il n'y a pas de raison pour que ça ne se passe pas. Ensuite, il faut que les belligérants sur le terrain, parce que mine de rien, on est dans un état de guerre. Israël fait la guerre, le Hamas fait la guerre aussi. Donc il faut que les belligérants soient d'accord, comme ça s'est produit d'ailleurs il y a deux semaines. Alors attention, on ne parlait pas de ça.
Au moment de la trêve,
Au moment de la trêve, exactement. Mais alors c'est une trêve ou une pause, comme on l'a appelé souvent, qui sont des termes intéressants parce qu'ils sont très subjectifs. En réalité, ils n'ont pas d'implication politique ou militaire. Ils n'ont une implication humanitaire.
Ça n'est pas une trêve dans la guerre, c'est juste une pause humanitaire.
Ce n'était pas un cessez-le-feu. Je veux dire par là que le cessez-le-feu implique très concrètement des conséquences à la fois militaires, politiques, peut-être diplomatiques, et en tout cas symboliquement importantes. Alors les Israéliens ne voulaient pas entendre parler de cessez-le-feu pour une raison très simple, c'est que si un cessez-le-feu intervenait maintenant, il marquerait fondamentalement une défaite. Pourquoi ? Parce que le Hamas est toujours au pouvoir, au moins sur une partie de la bande de Gaza, et que la catastrophique humiliation du massacre, du pogrom du 7 octobre n'aurait pas pu être, entre guillemets, effacée. Bon. Donc, de ce point de vue-là, les Israéliens avaient accepté le terme de trêve ou de pause. Mais c'est exactement pareil pour le Hamas. Et pour le coup, c'était très positif parce que ça a permis à 2 millions de Gazaouis d'abord de souffler, parce qu'on vit véritablement une tragédie humanitaire à Gaza, c'est inutile de se voiler la face. Et d'autre part, ça a permis, ne soyons pas trop candides, ça a permis aux belligérants de reprendre chacun des forces.
Et la libération des otages, bien sûr, on y reviendra. La situation aujourd'hui à Gaza, notamment pour les habitants. Alors, on sait que avant les bombardements, mais même s'ils sont assez continus, Israël envoie des messages en demandant à ce que les populations civiles se déplacent. Mais se déplacent où ?
D'un point de vue géographique, c'est extrêmement difficile. Soit, aujourd'hui, pour les Palestiniens du Sud, la seule possibilité, c'est soit franchir la barrière qui...
On le voit d'ailleurs sur la carte qui est à côté de vous, pour ceux qui nous regardent sur BFM TV.
Or, les autorités égyptiennes ne laissent passer qu'au compte-gouttes des gens, et encore, dans une situation très très difficile, et notamment des malades ou des grands blessés, ne laissent pas passer la population. Il reste le Nord. C'est-à-dire que si les Israéliens acceptent que la population du Sud, maintenant, rebascule vers le Nord.
Ça voudrait dire qu'après avoir tenté de fuir vers le sud, il faudrait qu'il remonte vers le nord ?
C'est ça, de façon à ce que les Israéliens, d'un point de vue strictement militaire, puissent mettre fin au bastion du Hamas, qui aujourd'hui se trouve évidemment à Khan Younes, à Rafah, autrement dit au sud de la bande de Gaza.
Quelle est la suite possible ? On a l'impression que là, on est installé dans une guerre, dans une forme de guerre tous azimuts, dont on ne voit pas la fin, parce que comme vous le disiez, au fond, si l'objectif véritable, c'est l'effondrement du Hamas, on en est loin.
Alors, aujourd'hui, on est dans une phase de ce qu'on appelle une guerre de haute intensité. Aujourd'hui, dans les prochains jours, la guerre va se poursuivre. C'est une évidence, parce que le but de guerre d'Israël est au moins de limiter, sinon d'interdire totalement, les capacités balistiques du Hamas. Autrement dit, ces missiles, en un mot, et d'empêcher, bien évidemment, des terroristes.
De ce point de vue-là, il y a un certain nombre de victoires pour Israël, d'avoir trouvé, découvert, notamment des caches de missiles.
Oui, mais c'est insuffisant, parce que encore hier, plusieurs centaines de roquettes et de missiles ont été tirées sur Israël, donc ce qui, du point de vue de la population israélienne, est juste inacceptable. Bon. Donc ça, c'est le but de guerre principal. Le deuxième étant le fait d'entraver la possibilité pour des terroristes de reperpétrer un pogrom tel que celui du 7 octobre dernier. Maintenant, l'éradication totale du Hamas, c'est strictement impossible, pour une raison simple. Le Hamas n'est pas seulement un groupe terroriste. C'est aussi un groupe identitaire, un groupe qui fait du social, un groupe qui fait de l'éducatif avec ou sans guillemets. Et par conséquent, il est l'expression d'une idéologie. celle d'une forme d'islamisme, voire d'islamisme radical, et notamment celle de la confrérie fanatique des frères musulmans. Ben, c'est pas avec des armes en quelques semaines que vous mettez fin à ça. Maintenant, je suis et je reste optimiste sur le jour d'après. Je veux dire par là que la condition étant celle de, enfin la condition de l'arrêt des hostilités, c'est le désarmement du Hamas. Mais juste après, ce qu'il faut impérativement, et je le dis et je le répète, c'est le retour de l'autorité palestinienne dans la bande de Gaza. Personne d'autre au monde n'est juridiquement, en droit international, moralement et j'allais dire géopolitiquement, fondé à contrôler un territoire palestinien que d'autres Palestiniens. Or, l'autorité palestinienne, qui tient malgré tout ce qu'on dit, de manière souvent paresseuse, on la discrédite et on la disqualifie depuis des années. Moi, je constate qu'en Cisjordanie, dans la zone A, c'est-à-dire dans les villes palestiniennes, hein, qu'elle contrôle pour l'essentiel, elle tient. Ça tient l'autorité palestinienne. Donc personne d'autre ne peut revenir
est-ce
à Gaza.
Est-ce qu'elle le souhaite ? Est-ce qu'elle est prête à jouer ce rôle ?
Elle ne souhaite pas à n'importe quelle condition. À la condition d'une reprise d'un véritable processus de pourparlers, d'une part, et d'autre part, avec la perspective évidemment de la création des deux États, et moyennant bien évidemment finances pour pouvoir reconstruire.
Mais les finances, pour le coup, il y avait des finances qui étaient envoyées à Gaza. Si elles étaient envoyées à l'autorité palestinienne, est-ce qu'elles reviendraient véritablement à la population ?
Dans la mesure où le Hamas serait défait, oui. Et vous savez, au Moyen-Orient...
Mais quel serait le moment où les autorités israéliennes pourraient dire « ça y est, le Hamas est défait ». Quelle en serait la preuve tangible ?
Alors c'est la question fondamentale, il n'y a pas d'amour avec des preuves d'amour, il n'y a pas de destruction et des preuves de destruction, il n'y a pas de victoire, il n'y a que des preuves de victoire. Alors je le répète, les missiles, les terroristes qui ne pourraient plus passer, et à la limite, l'exil ou la neutralisation des deux, trois principaux chefs du Hamas.
L'exil c'était déjà le cas, notamment pour la tête du Hamas.
Oui, c'est ça. Alors voilà, certains sont au Qatar, mais a priori, pour la branche militaire, on est toujours sur des gens qui sont dans les...
À qui on pourrait, à un moment, proposer, à qui Israël pourrait même accepter qu'il y ait l'idée qu'il trouve refuge aussi au Qatar, potentiellement?
Sans doute, parce que l'opinion publique israélienne se fiche un peu des chefs du Hamas. L'important, c'est qu'il n'y a pas de missiles et qu'il n'y a pas de terroristes. Bon, pour l'Israélien de la rue, si vous voulez, c'est ça qui compte. Après ce qui se passe à l'intérieur de Gaza, c'est plus tellement son problème. La troisième condition qui me rend optimiste, si elle advient, je pense qu'elle adviendra, c'est la modification du gouvernement israélien. Il est en sursis. La faillite des renseignements militaires, mais sans doute la faillite d'une forme de complaisance vis-à-vis du Hamas ces dernières années, elle n'est pas tolérée par l'opinion. Et une commission d'enquête se mettra sur pied, comme à chaque fois qu'il y a des problématiques très fortes, des faillites militaires. Hein, on l'a vu il y a 50 ans, presque jour pour jour, hein, après la guerre du Kippour de 73. On l'a vu en 83, pendant la catastrophique guerre du Liban avec Begin. Et les commissions d'enquête en Israël, elles font chuter des gouvernements dont je peux vous garantir qu'ils sont bien plus prestigieux que celui de M. Netanyahu aujourd'hui. Et avec des conséquences qui furent moins terribles que celles du 7
octobre.
Mais ça,
c'est impossible au moment même du conflit.
Au moment même, ce n'est pas possible. Parce qu'a priori, on ne change pas un chef politique.
Il y a une forme d'union nationale dans la stupeur qui a suivi le 7 octobre.
Oui, et c'était demandé par l'opinion. Et aujourd'hui, ça existe. Ce gouvernement d'urgence nationale, il existe. Mais à court, moyen terme, la coalition changera. Alors si vous, je le dis d'un mot, si vous groupez, si vous agrégez ces trois conditions qui ne relèvent pas de la pensée magique, qui sont possibles. Un, désarmement principal, en tout cas du Hamas. Deux, retour de l'autorité palestinienne soutenue par l'Occident et par tous les régimes arabes modérés. Et enfin, trois, l'avènement en Israël d'une coalition centriste, hein, d'après toutes les enquêtes d'opinion, c'est ce qui se produirait. Alors tout redevient possible,
mais c'est pas pour tout de suite quand même, Frédéric Ancel. Il y a aussi ces questions avec ce qui se passe au Liban, on va y venir, l'armée libanaise qui a annoncé la mort d'un soldat dit tombé en martyr, et puis il y a les menaces que fait planer l'Égypte sur une éventuelle migration vers l'Europe. D'abord, l'armée libanaise, est-ce que Tsahal reconnaît d'ailleurs la mort de ce soldat libanais, Tsahal qui dit regretter l'incident, est-ce que ça peut à un moment être le déclencheur d'un conflit plus large ?
Alors je ne le crois pas, pour le coup j'ai jamais cru à l'extension ou à la régionalisation du conflit, et pour l'instant heureusement je n'ai pas eu tort, puisque le Hezbollah et l'Iran pour l'instant n'interviennent pas, en tout cas pas directement et pas massivement. L'armée libanaise, vous savez, elle est extrêmement faible à l'image.
Elle n'a pas intérêt à prendre ce prétexte pour rentrer dans le conflit.
Ah mais non, de toute façon, il y a pas de situation de guerre entre le Liban et Israël. Il y a une situation de guerre entre le Hezbollah et Israël. Or le Hezbollah est infiniment plus puissant que l'armée libanaise. Il est beaucoup plus riche lui-même en soi que l'État libanais, qu'il incarne en quelque sorte depuis très longtemps. C'est un État dans l'État. Il le vampirise de l'intérieur. Et le Hezbollah qui obéit non pas, évidemment, au président libanais, tant est qu'il y a un président en ce moment, il n'y en a pas, mais qui obéit à l'Iran, le Hezbollah, lui, fait la guerre à...
Un mot sur l'Iran, justement. Au début de ce conflit, on avait l'impression que l'Iran continuait à tirer les ficelles de manière assez directe. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours l'hypothèse qui est sur la table, ou est-ce qu'au contraire, l'Iran se détache de ce qui s'y passe? Quel est le rôle que joue l'Iran?
Alors, la toxicité géopolitique de la République islamique d'Iran est absolument claire dans l'ensemble de la région, mais ce n'est pas parce que cette République islamique est dirigée par des fanatiques que ces fanatiques sont par ailleurs des imbéciles. Ils connaissent parfaitement les rapports de force. Et aujourd'hui, ils savent à quel point l'armée israélienne est dangereuse. C'est-à-dire que pourquoi l'Iran interviendrait aujourd'hui, et son instrument, le Hezbollah, pourquoi interviendrait-il massivement, militairement, contre Israël pour défendre un Hamas, d'ailleurs qui n'est même pas chiite, moribond, et qui prend des coups de la part d'Israël, au risque de perdre des raffineries, des installations nucléaires, des installations portuaires en riposte israélienne. J'y crois pas, j'y ai jamais cru. Donc il y a un maintien de la tension de la part de l'Iran et du Hezbollah. L'Iran qui d'ailleurs en général, pardon l'expression, envoie au casse-pipe ses proxys, ses alliés, mais l'Iran n'y va pas directement.
Il n'y va pas directement. Frédéric Ancel, il y a cette menace agitée par l'Égypte qui dit qu'au fond, si pour tenter de fuir la bande de Gaza, les Gazaouis finissaient par traverser la frontière et arriver sur le sol égyptien, alors l'Égypte dit qu'il pourrait les mettre sur des bateaux pour leur permettre de tenter de rejoindre l'Europe. C'est quoi? C'est une forme de chantage aux migrants?
Oui, notamment vis-à-vis des Européens. C'est-à-dire, l'Égypte, qui est un État souverain, n'a pas nécessité, alors sauf pour des raisons humanitaires, mais n'a pas nécessité politique de recueillir sur son sol souverain des centaines de milliers, voire des millions de
ce qu'ils n'ont
réfugiés.
Jamais fait, d'ailleurs, parce qu'on parle toujours de la fermeture des frontières entre Israël et la bande de Gaza, mais l'Égypte, à l'inverse et au sud, a elle aussi, depuis très longtemps, fermé toute possibilité pour les habitants de Gaza de passer en Égypte.
Ah oui, mais depuis le putsch du Hamas contre l'autorité palestinienne à Gaza en 2007, il y a un blocus israélien, mais il y a aussi un blocus égyptien. Parce que s'il n'y a pas de blocus égyptien, tout pourrait passer dans la bande de Gaza. Je note d'ailleurs que beaucoup de choses passent en faveur du Hamas, et notamment des armes. Je ferme la parenthèse via l'Égypte.
Attendez. Ce que vous dites là, ça veut dire que en ce moment, dans ce que l'on croit être des camions humanitaires, il n'y a pas que de l'aide humanitaire?
Si, en ce moment, si. Parce que là, pour le coup, l'aide humanitaire, elle se fait sous l'égide des Nations
Unies. Donc là, en ce moment, elle est particulièrement contrôlée. Mais ce que vous voulez dire, c'est que toutes les armes qu'on a pu trouver à Gaza, qu'on a pu découvrir à Gaza récemment, elles étaient forcément passées par quelque part?
Les armes. Voilà, les armes les plus rudimentaires sont fabriquées sur place, sauf qu'il faut bien des matériaux pour les fabriquer, ces armes. Et donc ça vient d'Égypte, alors certainement pas officiellement, puisque le maréchal Sisi, lui, est en but précisément aussi contre les frères musulmans, il lutte contre eux depuis son arrivée au pouvoir en 2013, et il craint évidemment au dernier degré l'extension chez lui du Hamas, dont je rappelle que c'est la branche radicale palestinienne des frères musulmans.
Je reviens, Frédéric Ancel, sur ma question. Cette menace que brandit l'Égypte de faire partir les Gazaouis en direction de l'Europe sur des bateaux, est-ce que c'est une menace qu'il faut prendre au sérieux? Quel est le jeu auquel joue l'Égypte aujourd'hui?
C'est une menace symbolique, ne serait-ce que d'un point de vue géographique et infrastructurel. Je veux dire par là que, et votre carte le montrait bien tout à l'heure, le Gaza débouche sur l'Égypte, oui, mais enfin sur le Sinaï. Et le Sinaï, c'est une péninsule quasi totalement désertique qui est absolument impropre à l'accueil de centaines de milliers ou de millions de personnes. D'ailleurs, très peu de gens y vivent. Et la seule véritable ville qui se trouve au nord du Sinaï est une petite ville qui s'appelle El Arish et qui ne pourrait en aucun cas admettre autant de réfugiés. Et sur le port de laquelle des gigantesques bateaux ne pourraient pas mouiller. Encore une fois, d'un point de vue infrastructurel et géographique, ce serait quasiment impossible.
Une dernière question, Frédéric Ancel, sur les otages qui restent aujourd'hui dans la bande de Gaza aux mains du Hamas ou de ses alliés. 138 otages israéliens et étrangers qui seraient encore en ce moment même détenus dans la bande de Gaza. Est-ce que les négociations, malgré la reprise des combats, se poursuivent, et est-ce qu'il y a l'espoir éventuel de la libération des otages suivants?
Je crois que oui, parce que même dans les phases les plus intenses des guerres dans l'histoire, on garde un canal de négociation. Fut-il strictement militaire, il n'y a aucun rapport politique, évidemment, entre le Hamas et Israël, il n'y en aura plus jamais. En revanche, des canaux militaires ou humanitaires, et on a bien vu que ça avait fonctionné il y a deux semaines, soit via l'Égypte, soit via le Qatar, soit via les États-Unis qui ne sont jamais loin parce que ça reste de loin la puissance dominante de la région, voire via la France, ici ou là, ça reste non seulement probable, mais très vraisemblable.
Merci Frédéric Ancel d'être venu ce matin nous éclairer effectivement dans ce triste anniversaire, puisque c'était il y a donc deux mois jour pour jour que tout a basculé avec cette attaque du 7 octobre. Vous êtes géopolitologue spécialiste du Moyen-Orient et je voudrais rappeler le titre de votre dernier livre, Les voies de la puissance, penser la géopolitique au 21e siècle, c'est aux éditions Odile Jacob.